Bonjour la Terre au Carré, c'est Carole de Toulouse. J'appelle d'abord pour savoir comment vous allez toute l'équipe, parce que ça doit pas être évident tous les jours d'annoncer tout ce qui se passe et de voir que rien ne bouge. Et je pense qu'un jour il va falloir faire une émission choc, une émission où on expliquera tout ce qui nous attend, le réchauffement climatique, les tempêtes. Il faut avoir vécu et survécu à une tornade pour savoir ce que c'est et combien on se sent impuissant. L'effondrement du vivant aussi. Qu'est-ce qu'on va faire quand les arbres donneront plus rien, quand la terre donnera plus rien, les ruisseaux ne donneront plus rien, quand on va avoir des réfugiés climatiques, des réfugiés de la faim, pour manger, pour vivre, pour boire. Comment on va faire tout ça? Je pense qu'un jour, il va falloir expliquer. Ce n'est pas à l'échelle de 100 ans, c'est à l'échelle de notre génération. C'est maintenant. Et à l'échelle de nos enfants. Voilà, je vous souhaite beaucoup de courage. Continuez. Merci, à bientôt.
Oui, bonjour, c'est Vincent, près de Châteaulin, au bout du Finistère. Aujourd'hui, dans votre émission, vous avez évoqué les limites planétaires, 7 sur 9 qui sont dépassées. Et quand on voit l'ampleur des défis, on est vraiment tenté de baisser les bras. On se sent trop petit face à toutes ces difficultés devant nous. Certes, il y a des petits gestes qu'on va faire, baisser les températures, manger moins de viande. Mais il y a un geste qu'on peut faire, à la fois individuel et collectif, c'est en ce qui concerne nos banques. Aujourd'hui, vous avez évoqué aussi le projet de pipeline qui va traverser l'Ouganda et la Tanzanie au mépris total du droit des populations locales. Qui finance Total? Eh bien, nos banques financent Total, ou en tout cas certaines d'entre elles, en particulier le Crédit Agricole, celle qui disait à l'époque le bon sens près de chez vous. Eh bien, si vous avez un compte dans ces banques qui financent ces projets absolument inacceptables, eh bien, interpellez votre banque, ou mieux encore, changez de banque. Au regard de l'enjeu climatique, toutes les banques ne se valent pas. Tous ensemble, on peut arriver à faire bouger les lignes malgré tout. Au revoir.
Bonjour la tête au carré, je suis une auditrice fidèle de votre émission en Charente-Maritime. J'ai une maison chauffée au granulé de bois depuis 15 ans, mais cette année, les pellets ont augmenté de 3 à 4 fois par rapport à l'année dernière, et quand il n'y a pas rupture dans les magasins. On parle beaucoup à raison de l'augmentation du fioul et de l'électricité. Je ne comprends pas celle des granulés. Pour l'instant, je n'en ai pas encore trouvé et j'ai peur de la spéculation sur les cols roulés. Merci et bravo pour vos émissions.
Bonjour, c'est Paolo de Bordeaux. Je suis peut-être un petit peu neuneux en fait. J'en discutais avec ma fille qui me parlait de l'aviation. Je ne savais pas que les jets privés, avec le kérosène, je n'ai rien contre les propriétaires des jets privés. Ils ne payent pas de taxes non plus sur le kérosène. Elle est où la logique en fait? Ouais, bonne émission et courage.
C'est la Terre au Carré qui prend la mer. Ta-ta-taan. Ah putain, solide là pour le jingle. Bravo, bravo pour vos émissions. Un grand merci. Je viens d'écouter le podcast d'hier, là. La sulfateuse. Fabuleux. Après Timothée Parek, qu'est-ce que ça fait du bien ça. Et pour illustrer le propos, petite blague, je ne sais pas si vous l'avez vu passer depuis début octobre. Didier Lallement, le préfet de police de Paris qui a matraqué depuis 3 ans toutes les manifestations, a été nommé au secrétariat général de la mer. Sombre blague. Allez, bon courage, on lâche rien, reprenons le pouvoir.
Merci, cher auditeur, dont nous n'avions pas le prénom. Alors, lorsque vous parlez de sulfateuse, vous faisiez allusion à l'émission de mardi avec l'historien Yoann Chapoutot sur les limites planétaires qui, décidément, vous a fait beaucoup réagir. Merci aussi pour vos messages amicaux et de penser à notre éco-anxiété avec Camille, qui parfois, c'est vrai, on ne cache pas, hein, ça se fait un peu sentir à force de mettre en lumière quotidiennement la catastrophe écologique. C'est la raison pour laquelle, on va prendre la mer et le grand air, demain. On part sur Tara, émission sur la goélette au large de l'île de Groix, et toute la semaine prochaine sur la Loire, pour une nouvelle série des 4 saisons de la Terre au Carré. On prépare le ciré et la marinière. On vous attend donc demain en direct et pour vos messages sur le répondeur 01 56 40 45 45. En ces temps de crise écologique et de remise en cause de nos modes de vie consuméristes, un secteur est particulièrement pointé du doigt en ce moment, celui de la publicité. La période est délicate pour les professionnels de la pub qui se retrouvent pris entre deux réalités contraires, leur responsabilité écologique dans les messages qu'ils diffusent et les produits qu'ils vendent et une pratique indissociable de la surconsommation et des industries polluantes. Nos confrères de Reporters, le quotidien de l'écologie, publient à partir d'aujourd'hui une grande enquête sur le monde de la publicité à l'heure du défi climatique. Et c'est le dossier cet après-midi en partenariat donc avec la Terre au Carré et nos invités pour comprendre comment les professionnels de la pub traversent cette période délicate et cruciale en tous les cas pour nos sociétés. En studio avec nous pour en parler, le journaliste Erwan Manak et l'ex-publicitaire Marion Nadeau. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bienvenue Erwan Manak, c'est vous qui avez donc supervisé les 3 articles pour Reporter. Le premier donc sort aujourd'hui. Marion Nadeau, vous travaillé pendant 15 ans en agence de pub et aujourd'hui vous êtes directrice de la communication pour le groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Et puis en duplex de France Bleu Loire-Océan à Nantes, nous sommes avec vous Mathieu Janiche. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes consultant chercheur en communication et publicité responsable. Vous avez été nommé expert pour le bilan ADEME et ARPP, c'est l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, autour de l'étude française qui fait le point justement sur le greenwashing et la pub. On va voir ce qui se passe en ce moment dans le monde de la publicité sur les enjeux écologiques et comment ce secteur peut se réinventer sans tomber précisément dans le greenwashing. On en parle avec vos messages, toutes vos questions, amis auditeurs, sur la page de La Terre au Carré. On peut vous entendre directement avec l'application France Inter, vos messages vocaux et bien sûr les réseaux sociaux. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passe au vert à 14h30.
Oui, j'ai papoté avec la grande gagnante du plus grand concours de photos animalières au monde. La bataille ultra détaillée et en gros plan d'abeilles mâles pour une femelle, c'est au Texas.
Et on l'entendra tout à l'heure. Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée par Lucie Sarfati, avec Anne-Laure Cochet et Paola Collin à la technique.
La Terre au Carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
La publicité envahit les espaces publics qui devraient appartenir à tous et à toutes. En propageant des stéréotypes sexistes, classistes, grossophobes, de plus, elle promeut la surconsommation pour le profit de grands groupes transnationaux. Sous couvert de greenwashing, elle utilise même l'écologie pour redorer le blason d'entreprises criminelles qui font concurrence aux commerces locaux. La publicité est l'instrument de propagande d'un système capitaliste qui épuise les ressources de la terre pour enrichir une poignée de personnes. Nous sommes exposés à des milliers de publicités par jour et on nous considère avant tout comme des consommateurs à qui l'on hurle « pollue, consomme et ferme ta gueule ». La liberté, l'égalité, la fraternité, on verra ça demain.
Voilà, c'était le 25 septembre dernier à Paris, lors de la marche pour le climat organisée par Youth for Climate. Le message sur la publicité était cinglant dans la bouche de cette militante et on en parle donc de cet univers de la pub à l'heure du défi climatique, dossier en partenariat avec Reporter.net. J'aimerais bien avoir tout de suite une réaction à chaud, Marion Nadeau, sur ce que vous venez d'entendre dans la bouche de cette jeune femme.
Elle n'a pas tort. Enfin, si on se dit les choses aujourd'hui, la publicité a un impact fondamental sur la surconsommation, sur la vision de la société. Parce que la publicité a toujours été un marqueur sociétal. Et c'est ça qui dans les années 90-2000, était passionnant sur la pub. Parce que moi, je fais partie de la génération culture pub. Je regardais ça. La pub. Enfin, j'attendais la coupure pub pour regarder la pub. Et c'était des marqueurs hyper intéressants de ce qui était en train de se passer dans la société. Aujourd'hui, on a un moment charnière où on voit que l'écologie prend le dessus, que la planète... Pour la planète, on doit penser différemment. Et avec la publicité, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui ne marche plus.
Et totalement dichotomique. On va
exactement,
en parler
je cherchais le mot.
Mathieu Janiche, vous avez entendu aussi cette militante. Qu'est-ce que vous en pensez?
Effectivement, qu'elle a raison, qu'il faut reconnaître tous les travers de la publicité. Ça fait 50 ans que la publicité œuvre à l'encontre des enjeux climatiques et écologiques.
Erwan Manak, vous commencez votre enquête donc pour Reporter avec le témoignage de Guillaume, un publicitaire qui traverse une vraie crise de conscience et qui parle aujourd'hui de son milieu de la pub avec vraiment un vrai dégoût. Vous décrivez une véritable gueule de bois pour ce trentenaire dont le métier est d'inventer de nouveaux formats pour la pub en ligne. Est-ce qu'ils sont nombreux à témoigner comme lui aujourd'hui? Il y a vraiment un mouvement de fond là-dessus?
En tout cas, nous, on a été surpris par le nombre de... On a fait un petit appel sur les réseaux sociaux par le nombre de réponses qu'on a obtenues. Elles sont une quinzaine, hein. c'est pas une étude scientifique, mais les témoignages se recoupent avec plusieurs degrés de brutalité dans la prise de conscience, plusieurs niveaux de dissonance cognitive, mais à chaque fois avec le même sentiment, quand même un peu d'impuissance, de pas réussir à changer les choses de l'intérieur. Et chacun sont en difficulté à la fois pour marier, on est un peu tous dans ce cas-là, marier leur conscience et leur geste quotidien, mais aussi pour sortir en fait de ce milieu-là, parce qu'on va sans doute en parler. Il y a plein de verrous. Bon, il y a le verrou évidemment économique quand on a une situation, mais c'est pas le seul. C'est un environnement qui fonctionne un petit peu à part. Et du coup, on a ces témoignages de gens qui sont percutés par ce mouvement qui prend toute l'industrie vraiment à corps et qui se demandent ce qu'ils vont faire.
Vous parlez de fronde, de point de bascule, de prise de conscience et de dissonance. Donc, c'est vraiment un moment tout à fait particulier. Marion Nadeau, vous avez donc travaillé, je le disais, pendant 15 ans dans des agences de pub. Qu'est-ce qui vous a fait quitter ce métier en 2019, en fait? Il y avait un ras-le-bol? Il y avait quelque chose qui résonnait plus avec vos convictions?
Il y a une partie de ça, fondamentalement. Et puis, il y a aussi que c'est un métier de jeunes qui demande beaucoup et qui est très chronophage, qui prend tout. Ça nous prend toute notre vie. Voilà. Et à partir du moment où on commence à se dire, tiens, je ferais bien autre chose de ma vie qu'être à l'agence, on commence à trouver des options extérieures. Après, c'est très compliqué de quitter ce milieu. Et j'expliquais ça juste avant de rentrer.
Pourquoi ?
Parce que c'est extrêmement stimulant intellectuellement. C'est quand même un métier qui demande d'analyser en permanence la société, etc. C'est pour ça qu'en fait, en vrai, les publicitaires, ils savent tous ce qui est en train de se passer. Ils en sont tous très conscients parce que c'est leur métier d'analyser les grandes tendances, les lames de fond, etc. Le problème, c'est que le résultat de la publicité, c'est de vendre un produit. Donc, on est constamment dans ce moment de ça m'amuse, je fais des photos à l'autre bout du monde, je fais un film avec un réal que j'adore, on raconte une belle histoire, mais à la fin du fin, c'est pour vendre un produit. Donc on est tous là-dedans, donc tout le monde finit par partir à un moment donné, et les gens sont très lucides en interne.
Mathieu Janis, ça devient compliqué aujourd'hui de se revendiquer de ce milieu de la pub? Il y a vraiment quelque chose qui a changé dans les consciences selon vous?
Oui, c'est sûr que quand on discute avec les acteurs de ce milieu-là, ceux qui ont pris conscience des enjeux écologiques, ils se posent plein de questions sur le sens de leur activité. Et il y en a effectivement qui quittent le secteur, on va dire. Il y en a d'autres qui essaient de rester, de faire bouger de l'intérieur, mais comme le disait Erwan, c'est pas facile, déjà parce que la publicité est au service d'un modèle économique dominant qui ne fonctionne qu'avec toujours plus de ventes, en fait, un modèle linéaire, et donc c'est difficile de proposer autre chose tant que la société elle-même ne change pas.
Et parce que c'est ça, Erwan Manak, c'est quand même ultra puissant aujourd'hui, le marché de la publicité est un énorme marché, donc même s'il y a quelques personnes qui se posent la question d'en partir, etc., économiquement parlant, ça reste un secteur et donc une sorte de lobby très très important.
Ouais, c'est un marché qui est la pierre angulaire de notre système économique, puis qui est tendu vers la surconsommation, et c'est aussi non seulement c'est un marché puissant, ça brasse énormément d'argent, 15 milliards d'euros pour la seule publicité, mais aussi c'est un marché très interdépendant avec en bout de chaîne les annonceurs qui sont en fait les seuls à faire tenir toute une industrie, des agences créatives, des agences médias qui programment un petit peu, qui réfléchissent à des stratégies de programmation, et puis in fine les régies qui elles soutiennent toute une industrie culturelle, beaucoup de médias audiovisuels.
Nous, on voit Radio France, voilà. On en a suffisamment parlé.
Et donc tout ça verrouille un petit peu tout un monde. Ouais.
Mathieu Janis, on parlait quand même d'un changement, d'une prise de conscience. L'électrochoc, il est très récent quand même dans le milieu. Hein.
Oui, on peut situer cet électrochoc à 2020-2021 avec la Convention citoyenne pour le climat. C'est vrai que les acteurs de la filière se sont rendus compte que si on mettait les citoyens ensemble et qu'on leur demandait de trouver des solutions pour réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre de la France, la publicité était tout de suite visée avec une obligation de l'affichage de l'impact carbone des produits et services et avec une régulation beaucoup plus stricte de la publicité, et notamment l'interdiction de certaines publicités pour des produits climaticides.
Et ça fait peur, l'idée d'une régulation stricte de la publicité dans le milieu ?
Oui, ça fait très peur parce que c'est immédiat. C'est-à-dire que si l'État décide d'interdire la publicité pour les SUV, par exemple, il va y avoir 1 ou 2 milliards d'euros d'investissements publicitaires qui vont s'arrêter du jour au lendemain. Donc c'est beaucoup sur un budget de 15 milliards.
Marion Nadeau.
Oui, mais on touche du doigt vraiment le problème. C'est que c'est l'argent qui domine. Donc on peut se dire, on pourrait faire de la publicité éco-responsable, etc. Mais la réalité, c'est que là où il y a de l'argent, c'est les annonceurs qui vendent beaucoup, et donc c'est des grandes marques, et c'est elles qui décident ce qui va se passer. Donc l'agence n'a pas possibilité fondamentalement de dire « je ne communiquerai pas sur ce produit, je ne ferai pas la pub de ce produit », parce qu'ils vont aller dans une autre agence. Donc en fait, ils sont pieds et poings liés à l'annonceur.
Mathieu Janis a dit quelque chose d'important tout à l'heure en passant, il a dit « tant qu'on ne change pas nos comportements de consommateurs, il ne se passera rien dans le monde de la pub ». Donc c'est encore à nous que la responsabilité revient là-dessus.
En vrai, on ne va pas se mentir, tant que les voitures se vendent, les boissons gazeuses se vendent, parce qu'ils continuent à faire de la pub pour ces produits-là, parce que les consommateurs en achètent. Le jour où ça s'arrête.
Erwan Manak.
Ouais, c'est l'idée aussi que si on veut trouver du positif aussi dans tout ce qui se passe, on pourrait retourner la force de l'adversaire comme au judo en utilisant cette puissance qu'a la publicité au service du changement. Mm-hmm. Et si, alors là, je vais paraphraser Mathieu Janik, si cette chaîne de l'inaction en fait se transforme en chaîne de l'action, le petit geste de l'un amènerait le petit geste de l'autre. Et effectivement, derrière les annonceurs, il y a les consommateurs. Donc encore une fois, plus en bout de chaîne. Quoi.
Voilà, encore un peu de charge mentale en plus pour les consommateurs, décidément. Allez, on va évoquer l'impasse du greenwashing dans un instant avec vous. Et puis bien sûr, vous répondrez au message des auditeurs, émission en partenariat avec reporter.net.
Les âmes s'assoupissent sous la chaleur intense et les palmiers s'en balancent, des rigoles d'immondices. Notre pays embourbé où le peuple est un gueux et le ciel est suspect d'être si beau et si bleu. Chaque jour est une peine vaine sous l'astre brillant. On muselle les rêveries depuis bien longtemps. Le futur paraît vain, le tyran si puissant. Mais même d'où proviennent ces chants, ces voix que l'on entend? La bouche pâteuse de rêve un jour se désaltère, humidifie ses lèvres, libère ce qu'elle retient, les formules qu'elle célèbre et le pays qui vient. Renverse la dictature, piétine ses statues, on repeindra les murs, m'a dit l'homme de la rue. Dépoter le despote, planter des fleurs nouvelles, additionner nos cœurs, en faire des archipels. Un jour, on se lève pour être libre, on débat, on s'agite, au départ on évite la violence qu'ils impliquent, qu'ils renvoient, qu'ils appliquent, on répond par des rimes, on s'invente des rites, on déconstruit leurs mythes, on refuse la fuite, ils nous traquent aux satellites, nous envoient l'armée, les flics, l'humeur est sismique, donc un jour, on réplique, c'est le fracas dans la ville, la bravoure du civil, et la force vient de loin, de l'amour, de la vie, on affronte le destin, chauffé à blanc sont les poings, et l'on frappe, on riposte le regard vers demain, et l'espoir qui nous porte nous aide à tenir, on écrit aujourd'hui les poèmes à venir, bien qu'on tombe constamment sous le feu de leur haine, s'ils nous enterrent, ils perdront, car nous sommes des graines.
Et c'était Gaël Faye, des graines sur France Inter, et Thierry Dupin pour la programmation de l'émission.
La Terre au carré sur France Inter.
Alors, la publicité à la télévision, par là, vous avez, surtout c'est pour les lessives. Je sais pas, on doit en manger parce qu'ils nous en vendent. Hein. Ouh là là. Ah ben, vous avez, madame, je vois que vous avez acheté un baril d'Ariel. Si je vous le reprends, ils en donnent deux où il n'y a rien d'écrit. Oh ben non. Vous voyez, il faut vraiment être con pour pas prendre deux barils à la place d'un. Eh, vous imaginez la bonne femme qui dirait, ben merci vieux, salut, hein. Allez hop là. Ben, revenez, ça va pas là, c'est pas ça. Là. Coupez, on va la refaire, c'est pas bon.
Voilà, on l'a tellement entendu, mais on l'entend toujours avec autant de plaisir. Coluche sur la publicité. Marion Nadeau, on le disait hors antenne, c'est vrai que vous avez quand même, quand vous étiez dans ce milieu de la pub hein, pendant 15 ans, vous aviez quand même quelque chose d'ultra créatif qui était assez jouissif et qui fait tout le sel de ce boulot. Hein.
Oui, c'est ça. Et puis c'est tout un écosystème de réalisateurs, de photographes, de gens de l'extérieur avec qui on va travailler qu'on côtoie jamais autrement. Mmh. Et c'est un des rares métiers qui touche aussi à tous les médias. C'est-à-dire on fait aussi bien des films télé que des photos, que des spots radio, etc. Et ça, c'est vrai que quand on est un peu curieux, quand on a envie d'être un peu stimulé intellectuellement, c'est un des rares métiers qui permet ça.
Mais du coup, est-ce que cette créativité-là, dont vous nous parliez aussi tout à l'heure, et vous disiez que les gens de la pub avaient absolument conscience de ce qui se passait, est-ce que quelque part, elle n'est pas en train de devenir presque un peu maléfique, c'est-à-dire rendre des produits, toujours pour certains climaticides, attractifs, mais grâce à une super créativité
enfin... Bah si, c'est tout l'enjeu et toute la distorsion cognitive qu'on peut tous avoir face à un métier qui finalement a une fin très négative. Mais c'est pour ça que la prise de conscience, elle est de plus en plus fondamentale. Mmh. Et aussi parce qu'on est aussi remplacé, enfin, les créatifs et l'agence, par tout le modèle digital, les algorithmes, etc., ou du coup, qui transforme le métier créatif en quelque chose d'autre quand même.
Le monde de la pub en pleine crise, écartelé entre sa grammaire consumériste et l'urgence climatique, Erwan Manak, hein, c'est l'objet donc de vos trois articles sur Reporter. Mathieu Janiche, vous qui travaillez avec les marques pour les aider à transformer leurs pratiques, vous êtes aussi appelé par certaines ONG pour porter plainte contre justement le greenwashing. Bah, vous aussi, vous êtes un peu en distorsion cognitive, non ? Comme disait Marion Nadeau.
Oui, effectivement, c'est pas facile tous les jours.
On va pas vous plaindre non plus, hein, mais bon.
Non, ça va. Effectivement, il ne faut pas. Non, mais c'est super intéressant parce que c'est comment est-ce qu'on. Moi, je suis convaincu que on peut que la publicité, le secteur de la publicité, de la com, du marketing peut aider à accélérer notre transition et notre changement de modèle. Donc, une fois qu'on est convaincu de ça, ben, on essaie d'accompagner les acteurs et ça passe notamment par la sensibilisation, par la formation et c'est aussi en leur tenant un discours de clarté, de franchise. Un discours assez engagé qu'on peut arriver à les faire bouger, je pense.
Pardon, comment vous pouvez dire que, enfin, on dirait, pardon, Elisabeth Borne qui dit que la sobriété, c'est pas produire moins. Comment vous pouvez dire que la publicité peut aider à changer de modèle, puisque le principe de la publicité, et Marion Nadeau le disait, c'est de vendre.
Ben, je commence par dire qu'il faut moins de publicité. Il faut qu'on soit exposé à moins de messages publicitaires, ce qui pose notamment la question du modèle économique des médias. Ensuite, il faut des publicités avec un contenu différent pour des produits et des services qui sont moins impactants. Et c'est aussi, ça a été évoqué, toute la question des stéréotypes des modes de vie. Est-ce qu'on nous présente encore la possession, l'achat, la réussite, le bonheur comme l'alpha et l'oméga de notre vie? Donc c'est proposer d'autres modèles de société, d'autres moyens d'être heureux. Et ça passe donc pas uniquement par la possession, notamment de certains produits et services. Donc en fait, aujourd'hui, j'ai des marques qui viennent me voir justement pour entendre ce discours-là et pour ensuite se dire, ok, une fois qu'on a compris ça, qu'est-ce qu'on fait ?
Donc ils viennent vous voir pour se faire flageller, en fait, hein, c'est
ouais.
Ça.
Mettez la clé.
Il y a quand
porte.
Même un truc un peu masochiste, non ?
Oui, mais c'est par exemple une compagnie aérienne où on va discuter de quand est-ce que vous allez réduire le volume, le nombre d'avions, le nombre de trajets en avion. Peut-être qu'ils ne communiqueront dessus que dans 10 ans ou 30 ans, mais en attendant, enfin, j'espère que ce sera bien avant, mais en attendant, au moins la question, elle est débattue avec les principaux dirigeants, en fait, avec les responsables RSE, marketing et aussi la direction générale. Il y a un besoin vraiment de parler de ces sujets-là qui sont en fait déjà latents dans la société et dans leur entreprise aussi.
Erwan Manak, quand justement une agence de pub décide de s'inquiéter hein, de son impact, est-ce que là justement c'est attention le danger immédiat autour du greenwashing qui apparaît ?
Bah c'est vrai que d'après les interviews moi que j'ai menées, bon il y a le constat général que le greenwashing est partout et il est pas forcément intentionnel, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans le bureau à dire comment on va manipuler
piéger les consommateurs. Ouais.
C'est là que l'enjeu de la formation il est intéressant parce que je pense que
ça part parfois de bonnes intentions en fait, c'est ça. Hein.
Ouais voilà c'est et effectivement il y a des chartes de bonne conduite, il y a des frontières à fixer dans la manière de travailler pour les publicitaires. C'est un apprentissage qui est nous, bah, c'est pas récent hein, ça fait quand même plusieurs même décennies que les gens s'interrogent sur la communication responsable, mais là qui est puissant en ce moment. Et ce qui, en gros, vraiment le maître mot de tout ça, c'est la transparence. Transparence et finalement complexité aussi dans le message, donner la complexité des démarches environnementales et la vérité sur les produits. Et alors là, on rentre dans un point vraiment de friction sur ce qu'est la publicité. La publicité, c'est faire désirer. La transparence, c'est un petit peu antinomique.
Marion Nadeau, ça veut dire que les agences ou les marques ne sont même pas conscientes parfois qu'elles font du greenwashing ?
Alors, je pense qu'elles ne sont pas toutes au même niveau. Il y a des gens plus ou moins sensibilisés sur les sujets. Après, la réalité, c'est que c'est ce qu'on leur demande. En vrai, c'est-à-dire quand, alors je ne vais pas citer de marque, mais quand une grande plateforme numérique fait une publicité sur sa fondation en jouant la jeunesse et l'écologie, normalement, n'importe quelle personne consciente de ce qui est en train de se passer aujourd'hui se joue, dit on ne fait pas ça, ce n'est pas possible. Et en même temps, à la fin, C'est celui qui paye qui décide.
Et quand une grande banque, par exemple, qui finance, je ne donnerai pas de nom, mais qui finance des projets fossiles, fait des pubs avec en plus des courbes d'épargne qui suivent la crête d'une montagne pour montrer qu'ils sont green compatibles, etc. Ça, c'est quand même hyper cynique.
Bah, c'est hyper cynique et c'est là où la RPP devrait agir.
Régif.
Bah, ouais,
oui. Régie pub.
Ouais. Voilà. Non, c'est pas la régie, c'est le bureau de validation des. Ouais. Alors avant, ça s'appelait la BVP. Donc c'est pour ça que moi je suis restée à l'ancienne, mais c'est ceux qui valident les messages publicitaires, qu'il n'y a pas de mensonges, de tromperies, etc. Et en fait, le vrai enjeu, il devrait être, la formation, elle devrait être là-bas. Et moi, je voudrais rebondir sur l'idée de la formation, si je peux me permettre deux secondes.
Ouais.
C'est que là, on est dans la méthode des petits pas. C'est-à-dire que là, on a, en fait, ça, il aurait fallu le faire dans les années 90-2000. Là, aujourd'hui, on n'a plus le temps.
Alors, la RPP, c'est l'autorité de régulation, hein, justement, pour les agences. Mathieu Janich, vous travaillez justement avec cette autorité, avec également l'ADEME, qui a un rôle un peu de surveillance des messages. C'est-à-dire, dès lors qu'on fait un message à tendance écologique aujourd'hui, on est obligé de passer par l'autorité de régulation ou pas ?
Quand on diffuse un spot en télévision, oui, c'est obligatoire. Pour tous les autres formats, c'est facultatif.
Ah bon ?
C'est une décision en fait du Grenelle de l'environnement. C'est là où on voit que le législateur peut avoir un rôle très important. Si on obligeait l'ensemble des acteurs à faire valider leur message par l'autorité professionnelle de la publicité, ça serait déjà un grand pas, même s'il ne s'agit pas d'une autorité indépendante.
Qu'est-ce qui doit être validé d'ailleurs autour d'une pub exactement alors ?
C'est son degré de
greenwashing précisément ?
Oui, en fait, il y a des règles, mais comme il y a des règles sur le développement durable, la manière dont on va parler, vanter les mérites d'un produit ou une démarche de responsabilité, on a des règles aussi sur l'utilisation des personnes, par exemple, sur l'utilisation des enfants dans la publicité, sur les mentions légales. Donc tout ça, ce sont des règles déontologiques qui sont écrites, et normalement, la profession s'engage à les respecter. Et donc toute l'idée de ce bilan qui est réalisé par l'ADEME avec la RPP, c'est de vérifier si ces règles en matière de développement durable sont respectées ou pas.
Message d'Elisabeth sur franceinter.fr, on rend toujours le consommateur responsable, mais si on ne construit pas, eh ben on n'achète pas. Pendant ce temps-là, des gens s'enrichissent et se moquent du monde autre que le leur. Et par rapport à la législation et aux règles là dont on parlait à l'instant, Erwan Manak, par exemple, sur l'automobile, il y a eu cette législation qu'il faut mettre du coup un petit message privilégier les mobilités douces, etc. Là, j'ai vu une publicité pour une voiture en bas là, dans la rue, donc un énorme panneau et c'est écrit mais en minuscule en bas, quoi. Donc, est-ce que ça, par exemple, c'est pas un peu se foutre de la gueule du monde, pardonnez-moi l'expression.
Bah, c'est l'éternelle question qui a été l'épine dorsale de tout ce travail. C'est est-ce qu'il faut célébrer les petits gestes ou au contraire redouter qu'ils retardent le vrai changement ? Et je pense que c'est un questionnement qu'on a dans tout, au quotidien, 10 fois par jour.
Mais là, c'est plus l'affichage, c'est tout petit.
Normalement, c'est verrouillé,
c'est
ça.
Pareil.
Normalement, il y a une taille minimum à avoir. Normalement, c'est proportionnel à la taille de la photo, mais bon.
J'aimerais qu'on écoute juste une petite pub avec la voix de Fabrice Lucchini pour parler et penser notre discussion sur le greenwashing.
Cette petite boule de verre détient des pouvoirs hallucinants. Elle est capable d'empêcher la neige de tomber. Comment ? En inondant l'atmosphère de CO2. Ce serait triste que la neige ne tombe plus. Vous pensez pas ? Il y a une solution. Utilisez des ampoules basse consommation. En plus, vous mettrez de l'argent de côté. La prochaine fois, je vous raconte une histoire étonnante, celle de la voiture et du glacier.
Utiliser des ampoules basse consommation.
Ah, c'est dommage parce qu'on l'a pas, l'histoire de la voiture et du glacier. On aurait bien aimé l'entendre. Mathieu Janich, ça c'était en 2007, hein, cette publicité dans la voix de Fabrice Lucchini. Est-ce que ça passerait, ça, aujourd'hui, dans la grille de lecture du greenwashing ?
Oui, parce qu'on est dans la promotion de gestes, même si on est sur des petits gestes, c'est toujours favorable. Il faut bien comprendre qu'on est exposé à des milliers de messages qui nous donnent envie d'acheter des produits ou des services ou qui nous donnent envie de partir en vacances très loin, de prendre l'avion, etc. À côté de ça, on a combien de messages qui sont favorables, qui nous expliquent pourquoi est-ce que c'est bien de prendre les transports en commun, qui nous valorisent quand on fait ce travail-là, qui nous incitent à manger moins de viande, etc. Il y en a très très peu. Donc, plus il y en a, mieux ce sera.
Bon, en tout cas, la pub qui annonce qu'une voiture peut protéger la fonte des glaciers, là, je pense qu'on n'y serait pas forcément.
Non, bien sûr.
Hein, on est d'accord là-dessus. Hein. Allez, on se retrouve dans un instant. On poursuit cette discussion autour de la pub avec pas mal de messages qui arrivent pour vous sur franceinter.fr.
France Inter, la Terre au carré.
14h32, on passe au vert, Camille Cronier.
Et j'ai dans les mains, enfin dans le téléphone, la photo gagnante du grand prix, enfin du prix le plus prestigieux, pardon, je suis en train de chercher la photo en même temps.
Mais ça se verra pas,
elle est là, voilà,
pas.
Oui, mais je vous la montre quand même. voilà, photo gagnante du prix le plus prestigieux de photo animalière, le Wildlife Photographer of the Year, décerné depuis 1958 par le Muséum National d'Histoire Naturelle de Londres, concours international. Il y a eu 38 000 clichés envoyés cette année, 100 sélectionnés. Et voici donc le grand gagnant, The Big Buzz, photo d'abeilles qui forment une boule avec deux autres qui volent autour, le tout en gros plan. Ça se passe au Texas, des abeilles dites cactus, Diadasia rinconis pour le nom scientifique, des mâles en fait qui se jettent littéralement sur une femelle pour se reproduire. Et c'est l'américaine Karine Egner qui a capté cette scène incroyable.
C'est totalement la pagaille. C'est fou, avec de l'action absolument partout, ces abeilles se battent pour atteindre la femelle. Et c'est très dangereux parce qu'elles peuvent se casser les ailes, les pattes. C'est une vraie bataille pour gagner le trophée.
En fait, les femelles sortent des terriers qu'elles ont elles-mêmes creusés dans le désert au printemps. Ça ressemble à des mini-volcans. Et là, ça commence donc la bataille que Karine Egner a, vous vous en doutez, bien galéré à immortaliser des heures et des heures durant, le nez dans le sable, comme elle me l'a raconté. Elles bougent tout le temps, bien sûr, il n'y a pas moyen de leur dire quoi faire, rien. Moi, j'étais couchée par terre, en essayant de ne pas écraser l'abeille. En plus, elles ne sortent pas très tôt le matin, hein, ça leur prend un petit peu de temps de se mettre en activité. Donc, je prenais les photos aux pires et plus chaudes heures de la journée. J'ai utilisé un objectif très spécifique, très dur à utiliser, parce que c'est tout en manuel. Et puis, j'ai mitraillé tout ce que je pouvais en espérant que le point était fait. Vraiment, c'est même pas de l'expertise, hein. Je faisais en sorte que la technique fonctionne, mais après, c'est de la chance. Voilà, et petite question qu'on se pose tous quand même, piqué ou pas par les abeilles?
Non, ces abeilles-là sont très douces, dociles. J'étais au milieu de centaines et centaines et centaines d'entre elles, mais tout le monde est occupé et elles se fichent complètement de moi.
Le résultat et les détails sont donc saisissants. Karine Egner a elle-même été assez surprise. Quand t'as fini, tu sais pas si tu l'as. Alors tu fais défiler les photos en te disant « Ah, presque celle-là, celle-là presque. » Et celle-ci m'a comme sauté aux yeux. Et je me suis dit
« Pardon my French, but I said holy shit. »
Holy shit, voilà la bonne photo.
La raison pour laquelle j'ai choisi cette photo-là, c'est parce qu'on voit une abeille séparée de la boule, une autre dans le fond, et cette boule presque parfaite, avec les ailes en l'air, montrant à quel point ces abeilles sont fragiles et en même temps cette fragilité au milieu d'un groupe en pleine bataille. Et si on veut regarder les choses de manière plus philosophique, c'est la fragilité du monde naturel et la violence qu'on lui inflige en tant qu'humain.
La photographe qui ne fait ça que depuis 10 ans, je le précise. Avant, elle était éditrice de photos à National Geographic et encore avant, elle faisait des photos de mariage. Oui, oui. Elle a voulu faire passer un message comme le jury du concours, à savoir que même une chose aussi petite qu'un insecte qu'on ne voit pas, a une vie, une existence, une communauté, un boulot, des bébés, des scènes de sexe, tout ça. On doit vraiment faire plus attention aux petits êtres. Parce que ce sont ces petits systèmes qui construisent le nôtre. Karine Egner ne sait pas encore si elle va afficher sa photo dans son salon. Là, son plan, c'est de retrouver son chien, surtout avant de poursuivre son travail sur sa matière préférée. Underdogs, les outsiders, ceux qui sont en marge, les mal aimés, les mal vus, les rejetés ou les inconnus, parce que elle-même ne connaissait pas les abeilles cactus avant d'être piquée par la curiosité.
Camille Cronier, écoutez sur franceinter.fr. Allez, dans un instant, on revient sur notre dossier consacré à la pub avec plein de questions pour nos invités.
Say that I will change my mind. Maybe I will down the line. This shit is getting scary. You're pressuring me like crazy. It's crazy. Don't wanna live life in rewind. Having my future lay behind me and you. It's me. I think I'm better without you. Honey, please.
miel. Bah tiens, justement, on parlait d'abeilles avec voilà. November Ultra.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
En France, trois ONG lancent un appel pour interdire les publicités dans certaines industries polluantes. Automobile, transport aérien et maritime, énergie fossile, ces secteurs investissent chaque année plus de 5 milliards d'euros pour promouvoir leurs produits, 4,3 milliards d'euros rien que pour l'automobile. D'après un récent sondage réalisé pour Greenpeace France, 65% des Français seraient favorables à une interdiction des publicités pour les marques qui contribuent au changement climatique.
Voilà, c'était Euronews en 2020 avec l'idée d'une loi Evin sur la publicité. On en parle avec nos invités Erwan Manac de Reporter, Marion Nadeau, ex-publicitaire, et Mathieu Janiche avec nous en duplex de Nantes. Vous qui travaillez donc à la fois pour conseiller les marques sur d'autres façons de faire et puis qui portez plainte également, on va en parler dans un instant. Sur la régulation, justement, sur les lois, Marion Nadeau, on en est où réellement aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a rien de très contraignant, hein? On en parlait tout à l'heure avec justement l'autorité de régulation. Il n'y a rien qui contraint vraiment
non,
les
à
publicitaires.
Part, hein. À part pour la publicité télé, qui est très réglementée, le reste passe un peu sous les radars, notamment la publicité sur Internet qui est cachée, etc. Donc ils essayent de réguler, mais c'est quand même une zone de non-droit extrêmement compliquée aujourd'hui.
Et c'est un marché énorme.
Et c'est évidemment. Énorme, c'est phénoménal.
On a d'ailleurs une question de Philippe là-dessus sur franceinter.fr, Philippe qui nous écrit de Londres. C'est bien de parler des agences de publicité, mais quid des influenceurs qui ont pris de plus en plus d'importance au travers des réseaux sociaux? Mathieu Janic, est-ce que les influenceurs, il y a moyen de réguler ou pas du tout? Parce qu'effectivement, ils font souvent du placement de produits, quoi.
Oui, à partir du moment où ils sont rémunérés par une marque pour parler d'un produit ou d'un service, ça s'apparente à de la publicité. Donc déjà, première chose, ils sont censés dire que c'est explicitement que c'est un poste sponsorisé. Et effectivement, il y a un enjeu de formation et d'encadrement de ces messages-là. Et l'autorité de régulation de la pub a lancé un code, un peu comme un code de conduite de l'influence responsable, qui couple en fait une formation avec derrière un test pour vérifier que les influenceurs et les influenceuses connaissent bien les règles.
L'influence responsable, mais il n'y a rien de contraignant non plus là-dedans.
Ben
en fait.
Ça.
Non, c'est vraiment...
Donc ça sert à rien quoi quasiment,
c'est incitatif,
non?
C'est tout quoi.
Ouais.
C'est un premier pas. Alors, il faut quand même noter que dans la loi climat et résilience, le greenwashing est maintenant reconnu comme pratique commerciale trompeuse et qu'on a de plus en plus d'ONG qui déposent des plaintes au civil ou au pénal pour faire condamner les annonceurs. Donc on a 3 ou 4 affaires qui sont en cours. Et donc là, c'est beaucoup plus significatif.
Erwan Manac pour Reporter.net, vous avez enquêté également du côté de la plus grosse régie publicitaire de France, c'est celle de TF1, avec 32 millions de téléspectateurs quotidiens quand même, donc ça fait beaucoup de masse publicitaire. Il y a un tournant environnemental qui se fait aussi dans ce groupe.
Oui, alors c'est un exemple intéressant. 32 millions, c'est ce que la régie pub est capable de toucher comme population, ouais. Sachant qu'il n'y a pas que TF1, il y a LCI,
il y a toutes les chaînes.
Et c'est intéressant parce qu'effectivement, donc comme je le disais tout à l'heure, elle est en bout de chaîne, la régie pub de TF1, mais elle est aussi vraiment un carrefour parce que c'est et elle souhaite changer. Elle a mis en place une démarche à peu près avec le même calendrier que les autres de 2020, prise de conscience, des actes avec plusieurs petits gestes, quantifier déjà ses émissions de CO2, ce qui
donc
est pas...
il y a eu tout un travail sur l'empreinte carbone de l'entreprise,
voilà.
En fait, c'est ça.
Voilà. Essayer déjà de la quantifier qui était un gros effort, ensuite la réduire, rendre visible des petits spots pour les labels de l'ADEME par exemple, enfin des petits gestes comme ça. Moi ce que je trouve le plus intéressant c'est ils ont fait former leurs collaborateurs, la quasi totalité des collaborateurs ont été formés au changement climatique avec une adaptation de la fresque du climat pour la publicité, donc ils ont été créateurs de cette déclinaison là. Donc, sauf que évidemment, très vite on tombe sur le problème fondamental qui est le modèle d'affaires de cette régie qui est là pour vendre de l'espace publicitaire et qui le fait avec brio, c'est-à-dire qu'ils sont la science de la régie pub de TF1, c'est l'efficacité publicitaire, comment réussir à ce que le message percute et transforme l'acte d'achat. Et donc là, on est sur une sophistication très importante, des études sur les programmes, sur les émotions liées au programme et quelle combinaison d'émotions correspond à un maximum d'efficacité du message publicitaire. On est sur un ciblage marketing de plus en plus fin, en croisant les données, notamment les données des cartes fidélité de grands magasins, qui permettent de cibler d'identifier des sous-cibles. Donc vous êtes consommateur, si
oui,
vous consommez
du coup, pardon,
des produits bio.
Donc avec ce que vous nous expliquez là, il s'éloigne complètement des enjeux de moins consommer, d'aller vers de la sobriété, de manger mieux, en l'occurrence, de mieux consommer, quoi. Parce qu'ils ciblent peut-être, mais dans tous les cas, ils vendent.
En tout cas, c'est sûr que moi j'ai trouvé l'exercice de transparence fait avec honnêteté. Ils ont une marge de manœuvre restreinte et ils essayent d'agir dans cet espace restreint du mieux qu'ils peuvent. Après, je pense qu'ils sont assez conscients de la limite de l'exercice.
En tout cas, c'est de la vraie science, hein, comme vous dites. Il y a tout à travailler sur la psychologie sociale finalement des téléspectateurs pour arriver à les toucher aussi finement.
C'est du micro-ciblage. Moi, je vais être plus cynique. C'est se donner bonne conscience. Donc, on fait des formations auprès des gens qui travaillent à la régie pour se dire. On prend ça en compte, on vous écoute, etc. Et à côté, ils changent rien à leur modèle, voire ils l'empirent. Parce que le micro-ciblage, ça a toujours existé. Mais aujourd'hui, avec les algorithmes et la puissance d'Internet, c'est très invasif. C'est très compliqué de passer outre ça.
Mathieu Janiche, un ou deux exemples, s'il vous plaît, de plaintes que vous avez justement déposées contre des marques pour qu'on comprenne bien où peut se cacher le greenwashing.
Oui, contre Adidas, par exemple, qui a fait une publicité pour une paire de baskets qui était fabriquée avec au moins 50% de plastique recyclé et qui écrivait en gros « End plastic waste ». Donc, sous-entendu, en achetant cette basket, on va mettre fin aux déchets plastiques dans le monde, ce qui est faux. Et en plus, la basket elle-même n'est pas recyclable, n'est pas récupérée par Adidas. Donc, ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple.
Flixbus, par exemple, vous avez aussi attaqué.
Ah oui, celle-là, elle est marrante. C'est le bus vert qu'on connaît. Et puis, en fait, il roule. Et derrière lui, on voit des arbres pousser. Et on ne sait pas pourquoi.
C'est magique.
Donc, ils doivent compenser leurs émissions, peut-être. En tout cas, ils nous disent que rouler en bus, c'est écolo, c'est bien connu.
Donc là, l'image est vraiment ultra trompeuse. Hein, et on est vraiment dans le mensonge.
Oui, alors, mais encore une fois, hein, ils ne font pas ça pour tromper. Ils sont persuadés d'avoir une démarche environnementale solide. Mais c'est juste qu'ils ne connaissent pas, ne serait-ce que les règles déontologiques.
Ce qui est intéressant, c'est que vous traquez tout, en fait. Même le vocabulaire excessif, par exemple, hein, quand on utilise trop des termes comme éco-responsable, engagé ou écologique, bam, là, on peut être attaqué. Ou des représentations trompeuses, par exemple, le visuel de la planète Terre ou le pictogramme circulaire avec des feuilles vertes. Ça, vous faites très attention à ça. Hein.
Oui, parce qu'en fait, ce sont des éléments qui ont l'air, qui sont petits, peuvent être insignifiants, mais en fait, qui véhiculent beaucoup de sens. Et quand une publicité nous dit qu'un produit est écologique, non, elle devrait dire qu'il est moins impactant, éventuellement qu'il est plus écologique et nous apporter les éléments de preuve. Quand un publicitaire veut illustrer la thématique environnementale, on va nous mettre la planète Terre, on va nous mettre une petite pousse d'arbre, des coccinelles ou des abeilles dont on a parlé tout à l'heure. Mais sauf que ça a du sens. Si je mets des abeilles ou une coccinelle, ça veut dire que, en gros, je suis moins impactant pour la biodiversité. Est-ce que c'est vrai? En général, non. Donc, voilà, en tout cas, on n'a pas les éléments de preuve. Donc, c'est vraiment faire attention à tous ces signes-là.
Paul nous écrit sur franceinter.fr au sujet d'une publicité en septembre dernier, septembre 2022 donc, pour Volkswagen, dit-il. Pourquoi être équipé? Alors, il cite la pub. Hein, pourquoi être équipé quand on peut être suréquipé? Visiblement, ils ont tout compris, ça laisse rêveur. Ça veut dire Marion Nadeau qui a encore aujourd'hui des publicités qui, pour le coup, vont vraiment à l'encontre de tous les messages qu'il faudrait véhiculer.
Bah oui, parce qu'ils restent dans le même modèle, en fait. Ils ont beau essayer de nous faire croire qu'ils ont intégré la petite planète, la petite pousse, la réalité, c'est qu'ils sont dans le même modèle. Et le suréquipement d'une voiture, c'est un langage d'automobile. Donc en fait, ils ne se sont même pas posé la question de la contradiction même de ce qu'ils étaient en train de poser par rapport à un moment.
Et Mathieu demande, lui, à quand des publicitaires qui utiliseraient leurs compétences et leurs outils pour nous faire réagir à la situation climatique et à l'effondrement de la biodiversité? Des slogans, des trucs qu'on retiendrait aussi bien que les slogans
de
certaines pubs.
Le problème, c'est que ça ne paye pas. On va se dire les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'argent, il est chez les marques et les annonceurs. Il n'est pas dans le fait de promouvoir la planète. La planète n'a pas d'argent à nous donner. Elle a la vie, etc. Et ça, c'est un choix qu'on peut faire.
C'est déjà pas mal.
Mais c'est énorme, on est d'accord. Mais en fait, les publicitaires qui veulent faire autre chose changent de métier. Ou vont ailleurs et vont mettre leur capacité ailleurs.
Tout comme la sobriété, finalement, c'est aussi ça le problème. C'est que ça ne vend pas du tout, en fait.
C'est ça. Ouais. C'est ça.
Et on est encore, Erwan Manak, dans un système au sein de la pub ultra néolibéral, en fait. Hein. Tout est basé là-dessus. Et finalement, c'est pour ça que c'est très compliqué d'aller à l'encontre de ce logiciel-là.
Ouais, là, pour le coup, c'est vous que je vais paraphraser, Marion Nadeau. Et vous disiez que la chaîne, en fait, où les tendances se font et se défont très vite. Mais à la limite, je vous laisse même l'expliquer sur en fait l'interdépendance très forte des acteurs. Aujourd'hui, la concurrence entre les agences qui font qu'on va pas être en capacité de dire non à un annonceur quand il vient avec un plateau.
Oui, les agences, elles vivent sur le fait que les marques demandent des publicités. Donc à partir du moment où on refuse, il y a des marques auxquelles on ne pourra jamais dire non. Et moi, j'ai travaillé dans des multinationales et j'ai vu à quel point on pouvait malmener les agences aussi pour leur faire ce qu'on voulait. Parce que quand on est une multinationale, on fait faire ce qu'on veut. Donc la réalité, c'est le rapport de force, il est complètement inégal. Et l'agence de pub s'est construite sur le fait de faire vendre. Donc en fait, il ne faut pas se mentir sur la capacité de ce que c'est une agence de pub. Après, les talents à l'intérieur, effectivement, seraient hyper intéressants à déplacer et à mettre ailleurs.
Mathieu Janiche, dans l'accompagnement des marques, par exemple, imaginons là, vraiment une marque hyper vertueuse qui est pleine de bonnes intentions. Comment est-ce que vous pourriez l'accompagner pour transmettre des messages qui soient justement très transparents sur même la transition écologique elle-même, finalement, de la marque?
Bon, si déjà elle est engagée, qu'elle est sérieuse, voilà, c'est assez simple qu'elle comprenne qu'il faut transmettre cette démarche de progrès, cette perspective d'amélioration continue. C'est une question de posture, en fait, d'humilité par rapport aux enjeux, et ne pas communiquer pour dire, ça y est, on a 25% de plastique recyclé, on est les meilleurs, quoi. Non, la difficulté, elle est vraiment avec les entreprises qui n'ont pas encore ou qui commencent tout juste à changer de modèle économique. Et l'enjeu, il est là, c'est faire prendre conscience aux annonceurs qu'ils ne pourront pas continuer à exercer leur activité comme ça pendant encore des années. Il va falloir se transformer. Et c'est là que le marketing et la communication, que ce soit en interne aux entreprises ou au sein des agences, peut aider à accélérer cette transformation-là.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des leviers côté financier? C'est-à-dire, depuis tout à l'heure, en gros, on dit que c'est presque indétrônable parce que ça génère vraiment beaucoup d'argent. Les marques vertueuses, il en existe. Heureusement, il y a des produits très vertueux, mais qui, malheureusement, n'ont pas l'argent pour payer la publicité. Donc, est-ce qu'il y aurait pas un levier, alors je sais pas, mais c'est une question que je pose, à faire sur la régulation aussi des prix et de tout l'argent que ça peut rapporter.
Dans un rapport publié par Thierry Libard et Giraud Guibert en 2020, qui avait été remis au gouvernement, il y avait la proposition de, à chaque fois qu'il y a une campagne qui est financée, il y a un pourcentage de ces sommes-là qui est reversé pour justement faire de la publicité pour en faveur de la transition, et notamment pour des produits et services plus vertueux. Donc on pourrait tout à fait imaginer ça.
Allez, on écoute Enzo, juste quelqu'un de bien, fermer les yeux. Imaginez ce bus-là qui fait pousser des arbres derrière lui.
Oh,
vous allez y croire, là, avec la petite intro d'Enzo. Bon après-midi sur France Inter.
Debout devant ses illusions, une femme que plus rien dérange. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Que retient-elle de sa vie qu'elle pourrait revoir en peinture? Dans un joli cadre verni, en évidence sur un mur. Un mariage en technicolore, un couple dans les tons pastels. Assez d'argent sans trop d'efforts pour deux, trois folies mensuelles. Elle a rêvé comme tout le monde qu'elle tutoierait quelques vedettes. Mais ses rêves en elle se fondent, maintenant son espoir serait d'être juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. Le cœur à portée de main. Juste quelqu'un de bien. Sans grand destin. Une amie à qui l'on tient. Juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. J'aime à penser que tous les hommes s'arrêtent parfois de poursuivre l'ambition de marcher sur Rome et connaissent la peur de vivre. Sur le bas-côté de la route, sur la bande d'arrêt d'urgence. Comme des gens qui parlent et qui doutent d'être au-delà des apparences. Juste quelqu'un de bien.
Enzo à l'instant sur France Inter. Allez, encore quelques minutes avec nos invités, Awan Manak de Reporter, Marion Nadeau, ex du monde de la pub, et Mathieu Janiche en duplex de France Bleu Loire-Océan. Erwan Manak, pardon, à l'issue de cette enquête, finalement, c'est quoi votre conclusion, vous, sur la capacité du monde de la pub à aller vers plus de vertu?
Mon avis personnel, j'ai peut-être pas vocation à donner, mais c'est que rien ne se passera sans réglementation. C'est pour ça que les ONG tapent beaucoup sur le clou de la régulation, enfin de la loi et bien climatique. Je pense que c'est malheureusement la base. Il y a des idées aussi qui sont intéressantes. Créer un comité d'éthique, je sais pas où j'ai entendu cette idée, mais pour permettre aux publicitaires qui souhaitent dire non d'être soutenus, de pas être seuls, de brandir une charte éthique, quelque chose.
Ça veut dire quoi, de dire non?
Non, je refuse de faire cette pub, c'est du greenwashing, et d'avoir quelque chose sur lequel s'appuyer, une autorité, une charte. Voilà, ça c'est une demande qui remonte des professionnels. Il y a des programmes de formation qui sur lesquels il faut forcément, pour lesquels il faut espérer. Donc petit changement, et moi j'en reviens toujours à cette interrogation, faut-il célébrer les petits gestes? On a envie de le faire, mais en même temps faut pas perdre à l'idée que ces petits gestes ils risquent aussi de retarder la rupture.
Mathieu Janiche, plus de régulation, de contraintes?
Oui, ça me paraît indispensable.
Sauf qu'elles n'ont pas été prises. Enfin, on revient sur ce que disait Mathieu Vidard tout à l'heure, la Convention citoyenne pour le climat qui proposait ça. Oui, donc pourquoi est-ce qu'on le reprendrait là à un moment ou à un autre?
Parce que la pression sociale augmente, en fait, parce que les plaintes auprès des tribunaux vont se développer, parce qu'on va avoir des réglementations européennes aussi qui vont imposer aux marques françaises d'être plus vigilantes. Donc je pense qu'on va vers plus de régulation, oui.
Marion Nadeau, il y a quand même des indicateurs qui montrent que ce secteur est en train de changer, parce que c'est apparemment de plus en plus difficile de trouver des créatifs aussi pour recruter au sein de ce monde de la pub.
Ouais, alors ça dépend quel créatif. Enfin, il y a toujours des gens qui sont très contents de faire ce métier-là. Je pense que ça restera. Mais je pense que la nouvelle génération est beaucoup plus à former à ce qui est en train de se passer. Et puis c'est de leur vie dont on va parler. Donc en fait, ils sont très conscients de ce qui se passe. Après, le sujet de la régulation et de se poser sur qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire, ça interroge quand même globalement la société dans laquelle on veut être. Et ça, la jeune génération, elle est dedans.
Mathieu, j'en ai juste une question sur l'autorité de régulation dont on parlait tout à l'heure. Il y a des publicitaires au sein de cette autorité de régulation, donc il y a des conflits d'intérêts aussi, non?
C'est surtout des juristes, en fait.
Ouais, mais il n'y a pas du tout de publicitaires?
Si, après, il y a des instances où les différents acteurs de la filière sont représentés. C'est sûr qu'on est sur une autorégulation professionnelle, mais comme dans l'ensemble des pays occidentaux, en fait.
Voilà.
Donc, en fait, c'est la profession qui s'autorégule. Voilà, donc, c'est clairement pas suffisant, à mon sens.
Donc, ça laisse peu espérer d'espoir sur le changement. Marion Nadeau, vous avez quitté la pub, on le disait tout à l'heure, pour vous occuper de la communication du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Est-ce que le ressort de la publicité est très utile pour vendre le discours de vos députés?
Ben oui, et c'est pour ça que je disais le talent publicitaire, il peut s'exprimer ailleurs, et justement on a une façon de penser la société, de l'analyser, de voir les choses qui peut être très pertinente à plein d'autres niveaux. Et donc moi j'ai choisi la politique parce que c'était une opportunité, mais oui, tout à fait, ça a du sens, beaucoup de sens.
Mais ça veut dire qu'il faut faire de bons placements produits aussi avec certains députés, mais il y en a avec lesquels ça marche bien,
oui,
cela dit.
Oui, parce que du coup on entend parler souvent des lobbies dans les couloirs, vous essayez de vous faire alpaguer par certaines marques qui vous envoient
pas du tout. Alors à l'Assemblée nationale, j'en ai pas vu encore, mais je viens
d'arriver. Il n'y a pas des envois de courriers, de plaquettes?
Alors si, il y a des envois, mais du coup on les décrypte. Alors en plus, moi je suis chez les écologistes, donc ils sont quand même très très à l'affût et ils font très très attention. Après, c'est plus comment on positionne le groupe, comment on communique, comment on raconte l'histoire des écologistes de manière à ce que ça soit percutant.
Oui, donc fort. Ça, c'est de la vraie pub. C'est vraiment le ressort de la pub.
Et ça a du sens, en fait. Donc, en fait, il y a une vie après la pub. On peut faire tout ce qu'on a appris dans la pub, on peut s'en servir pour des raisons beaucoup plus nobles et plus justes.
Votre meilleur produit écologiste en ce moment, c'est quoi, l'Assemblée nationale, s'il vous plaît?
Non, je ne citerai aucun nom.
Bon, très bien. On parle d'humain, on ne parle pas de produit. Merci Erwan Manac pour cette enquête donc dans Reporter. Donc, ça démarre aujourd'hui, hein, c'est ça?
Et les deux derniers épisodes demain.
Voilà. Vous avez pris plaisir à enquêter sur ce monde de la pub?
Ouais, beaucoup. Je me suis noyé, puis j'ai nagé, j'ai essayé de surnager.
Il y a de l'éco-anxiété aussi, hein, c'est ce qu'on voit dans votre article, chez certains membres justement de ce milieu. On peut retrouver évidemment tout ce travail que vous avez réalisé sur le site de Reporter, c'est reporter.net, le quotidien de l'écologie. On sera où demain, cette heure-ci, Camille Cronier?
Mais on sera sur un bateau incroyable en plein milieu de l'Atlantique.
Avec nos pilules pour le mal de mer.
En espérant avoir pas trop vomi, j'allais dire.
Parce que la météo s'annonce pas extraordinaire au large de l'île de Groix. En tout cas, retrouvez-nous ce que demain.
À bord de Tarin.
Ouais, sur l'océan. On sera donc en mer demain après-midi entre 14h et 15h pour le grand retour de Tara après 2 ans de mission. Tara qui s'en va vers l'Orient. Vous pourrez retrouver la goélette pour le week-end et donc on ira faire un tour avec eux demain entre 14h et 15h. Direction l'Orient cet après-midi. À demain.